Spotkania europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Evropis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Le Parlement européen vient d'adopter les grandes lignes de la nouvelle politique agricole commune, plus connue sous le nom de PAC. Avec près de 400 milliards d'euros sur 7 ans, elle représente le premier des budgets de l'Union européenne. Cette nouvelle PAC, qui va s'échelonner de 2021 à 2027, se devait d'être plus verte pour faire face aux ambitions climatiques de l'Union européenne, à savoir la neutralité carbone en 2050, mais aussi pour maintenir la biodiversité et offrir aux citoyens du continent une nourriture plus saine. La nouvelle PAC répond-elle à ces objectifs? Alors oui, pour les grands syndicats agricoles proches de l'agro-industrie, non pour les écologistes et les producteurs bio. Alors finalement, l'agriculture européenne sera-t-elle plus verte ou pas? Je vous présente les invités qui nous ont rejoints en studio ou par téléphone, Covid oblige. Et d'abord, deux eurodéputés. Anne Sander, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée européenne Les Républicains et vous siégez à Strasbourg, au Parlement de Strasbourg, sur les bancs du Parti Populaire Européen. Benoît Biteau, bonjour.
Oui, bonjour. À vous, merci de votre invitation.
Vous aussi, vous êtes député européen, Europe Écologie Les Verts, et vous siégez à Strasbourg sur le banc des Verts. Thierry Pouge, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en studio, le studio 21 de RFI. Vous êtes responsable du service des études et prospectives aux chambres d'agriculture de France. Un petit mot sur ces chambres d'agriculture qui ne sont pas forcément connues de nos auditeurs.
Oh, une vieille institution créée en 1924 qui a pour mission le développement agricole et la courroie de transmission entre les pouvoirs publics et les professionnels.
Une vieille dame.
Une vieille dame.
Et vous êtes par ailleurs chercheur associé au laboratoire Regard de l'Université de Reims. Bah, un petit mot sur ce laboratoire Regard, avec un S.
Regard avec un S parce qu'on a plusieurs approches évidemment et on traite essentiellement de tout ce qui est agriculture, énergie renouvelable, bioéconomie et développement durable.
Et puis aussi par téléphone, Émilie Mayer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes experte en tendance, consommation, alimentation à IRI. Je crois qu'on peut dire aussi chez IRI, mais IRI c'est quoi?
Alors IRI, c'est un institut d'études qui en fait mesure les achats des Français dans différents circuits de distribution, mais notamment dans les circuits de la grande distribution, les hyper et les supermarchés français.
Alors on vous entendra plutôt à la fin de cette émission. Et puis, comme chaque dimanche, nous ferons un détour par la rédaction de Courrier International, ce dimanche avec Romain Su. Alors Thierry Pouche, un mot sur la PAC. C'est la première politique européenne commune. Elle est inscrite dans le traité de Rome, c'est-à-dire dès 1957. Alors il y a une politique agricole commune et on peut remarquer qu'il n'y a pas, par exemple, en Europe, de politique industrielle commune. Elle n'existe toujours pas. Alors, à l'origine, pourquoi une politique agricole commune dès 1957?
Dès 1957, mais c'est surtout la consolidation de la politique agricole commune en 1962 qu'il faut retenir. C'est prévu dans les textes du traité de Rome, mais elle se met vraiment en application avec un certain nombre de règlements, d'objectifs, de finalités à partir de 1962. C'est une date importante parce que c'est une année après la construction du mur de Berlin. Donc il y avait presque une signification géopolitique aussi à la construction de cette politique agricole commune. Il s'agissait, après les années de guerre où il y avait encore des difficultés d'approvisionnement pour les consommateurs des 6 pays membres fondateurs de l'Union européenne, il y avait cet impératif de nourrir cette population. Et puis il y avait une sorte de partage des rôles entre les pays fondateurs du marché commun, entre l'Allemagne qui était plutôt à orientation industrielle et nous, étant donné notre superficie agricole, eh bien on avait la tâche de produire des produits agricoles et des produits alimentaires.
Historiquement, la France a toujours été la première bénéficiaire de la PAC.
Alors c'est la première bénéficiaire parce que c'est la première puissance agricole de l'Union européenne depuis le début. Elle représente, toute production confondue, 18% de la production de l'Union. Donc c'est un pays qui est un gros producteur et qui permet d'auto-approvisionner l'Union européenne avec d'autres pays maintenant, mais qui est aussi une puissance exportatrice. Donc sur la balance commerciale de l'Union européenne, ça compte.
Alors très longtemps, la PAC, la politique agricole commune, a représenté plus de la moitié du budget de l'Union européenne. Depuis une quinzaine d'années, il est en constante diminution.
Alors c'était même au-delà des 50%, puisqu'au moment de la première grande réforme d'envergure de 1992, le budget représentait encore 66% du budget total. Aujourd'hui, on en est à un peu moins de 40%, et dans les projections qu'on peut faire sur le budget qui va arriver dans le cadre financier pluriannuel, donc 2021-2027, mais Bon, ça sera certainement 2023-2030.
Oui, il peut y avoir un aménagement.
Voilà, exactement.
On va pas rentrer dans les détails, voilà. Mais c'est possible.
Ça, c'est lié au clivage au sein de l'Europe, au délai qu'il faut pour se mettre d'accord sur les textes. Mais on serait aux alentours, à la fin de la prochaine PAC, donc aux environs de 2030, on serait aux alentours d'un budget qui serait de 27%. Donc vous voyez qu'il y a quand même un déclin du budget européen consacré à l'agriculture dans un contexte qui quand même nécessite de réfléchir sur ce qu'on veut faire de notre agriculture.
Alors évidemment, on va y venir, c'est l'objet de cette nouvelle PAC, mais on peut dire que historiquement, et vous l'avez rappelé Thierry Pouche, au lendemain de la guerre, 1960, la guerre est encore très très présente, se nourrir c'était une priorité. On n'avait pas inventé les smartphones, les vacances, le week-end à Lisbonne ou à Rome. La priorité, le plus gros des budgets des citoyens, c'était de se nourrir, ce qui n'est évidemment plus le cas aujourd'hui. Et je pense qu'Éric et Émilie Mayer va nous en dire un mot à la fin de cette émission. Ce qui fait que cette PAC, elle a toujours favorisé la production. Elle a encouragé à produire plus.
Voilà, on pourrait peut-être même périodiser la politique agricole commune entre le tout début des années 60, où il fallait produire pour répondre aux besoins alimentaires de la population qui composait le marché commun, dans un contexte où le bloc de l'Est, qui était lui-même assez performant sur l'agriculture, avec l'Union soviétique notamment, et donc il fallait pas dépendre finalement du bloc soviétique pour notre approvisionnement. Donc de ce point de vue-là, les Américains ont tolérer la politique agricole commune. Donc il y a eu tout un tas de dispositifs de soutien à la production, et notamment les soutiens par les prix, qui ont permis, avec la modernisation, le recours au machinisme, aux engrais, etc., qui ont permis, en l'espace d'une dizaine d'années, d'atteindre l'autosuffisance à peu près dans un certain nombre de productions, que ce soit les céréales, la viande porcine, le lait et la viande bovine. Et donc là, on est sur une période assez faste finalement, mais à partir du début des années 70 et surtout des années 80, la PAC est victime en quelque sorte de son succès, c'est-à-dire qu'on a des surplus qu'il faut stocker, notamment...
Les
fameuses montagnes de beurre, il y avait aussi les céréales puisqu'on avait mis des taxes de co-responsabilité à une certaine époque. En 84, c'est l'application des quotas laitiers pour limiter la production de lait et donc limiter les dépenses liées au stockage de beurre, au stockage de poudre aussi. Et puis progressivement, la question des subventions aux exportations va également être posée. Et là, de façon très paradoxale, les Américains qui avaient toléré cette PAC, finalement s'en sont pris à elle à partir du milieu des années 80, estimant que tous ces soutiens internes ou ces soutiens externes constituaient une sorte de distorsion de concurrence vis-à-vis des productions américaines. Et donc on a une grande réforme en 92 qui consiste à baisser les prix d'intervention. À l'époque, il y avait même un peu de jachère qui était imposé. Et on commence à diminuer aussi ces subventions aux exportations. Et tous les 6 ans, donc, on a à peu près une nouvelle réforme, sauf à quelques moments où on a eu des bilans intermédiaires. Mais à peu près tous les 6 ans, on a une nouvelle réforme de la PAC qui conduit de plus en plus, depuis les deux précédentes, à verdir d'une certaine façon cette politique agricole commune. C'est-à-dire que, pour faire vite, on conditionne le versement de certaines aides au respect de l'environnement et de la biodiversité.
Alors aujourd'hui, c'est vrai que la dimension écologique s'impose de plus en plus, ne serait-ce que parce que l'Union européenne a une grande ambition en termes de réduction du réchauffement climatique, avec l'idée d'avoir, enfin l'objectif d'avoir une neutralité à carbone en 2050. C'est vrai que l'Union européenne est le continent le plus ambitieux en matière de lutte contre le réchauffement, d'où cette nouvelle PAC 2021-2027 qui finalement, on va le voir, arbitre un peu entre des impératifs de soutien à la production et une obligation de verdissement. Alors, avant de demander à nos deux eurodéputés, Anne Sander et Benoît Biteau, de réagir sur cette nouvelle PAC, nous allons faire un petit détour en Picardie, dans le petit village d'Hérissart. Bonjour Jean-Claude Bouton, vous êtes agriculteur à la tête d'une ferme d'une centaine d'hectares, un peu au nord d'Amiens, et vous êtes en pleine conversion, comme on dit, c'est-à-dire de traditionnel, c'est-à-dire chimique. Votre exploitation est désormais presque entièrement en bio, c'est-à-dire que vous n'utilisez plus ni engrais ni pesticides. Alors tout d'abord, une première question, qu'est-ce que ça représente la PAC dans vos revenus d'agriculteur ?
Environ entre 20 et 25% selon comment on compte. 20% quoi, un bon 20%.
Alors, il y a une nouvelle PAC qui se met en place, elle se veut beaucoup plus verte. Vous êtes donc en transition du chimique vers le biologique et quasiment déjà en biologique. On est en fin de transition sur votre exploitation. Qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle PAC ?
Le premier problème de la PAC, c'est qu'en fait, elle favorise le grand agriculteur qui, lui, va pouvoir reprendre des terres à cause de sa surface excédentaire. Et tous les jours, on constate, ici en campagne, à savoir que les petites fermes disparaissent au profit des grandes fermes. Si on veut faire de l'agroécologie, on ne peut pas en faire sur une grande ferme comme on le fait sur une petite. Il nous faut plus d'agriculteurs. Et j'attends de la PAC qu'elle remette en question, si vous voulez, ce versement proportionnel au nombre d'hectares, de manière à favoriser plus la petite agriculture qui pourra, elle, faire de l'agroécologie. La PAC favorise l'explosion de grandes structures, et puis le petit agriculteur ne peut pas s'installer, le jeune ne peut pas s'installer, et ça c'est dramatique, parce que le niveau de prix au niveau de l'installation est catastrophique. Ici, on va entre 8 000 et 17 000 euros, voire 18 000, pour la reprise d'un hectare de terre, la reprise, non pas l'achat bien sûr, uniquement la reprise. Comment voulez-vous qu'un agriculteur s'installe aujourd'hui avec des prix de reprise de terre qui vont entre 8 et 18 000 euros l'hectare, sans parler des bakchiches souterrains? C'est impossible aux jeunes agriculteurs de s'installer. Donc, il faut absolument moins donner à ceux qui ont beaucoup déjà, et donner un peu plus à l'agriculteur qui veut s'installer ou à l'agriculteur qui a une structure raisonnable sur laquelle il va pratiquer l'agroécologie.
Anne Sander, vous êtes eurodéputée Les Républicains, groupe PPE, Parti Populaire Européen. Alors cette nouvelle PAC 2021-2027, est-ce qu'elle va répondre ou non aux espoirs de cet agriculteur de Picardie qui a dit, en gros, voilà, on soutient trop les gros, pas assez les petits, on soutient trop les ceux qui font beaucoup de chimie, je le dis avec mes mots, et pas assez ceux qui essayent de respecter la biodiversité, se développer en bio.
En tout cas, ça a été notre combat de porter cette ambition environnementale au Parlement européen, mais aussi de défendre un certain modèle de l'agriculture avec des exploitations plutôt familiales. Peut-être un mot d'abord sur toute la question liée à l'ambition environnementale de cette nouvelle PAC. Je crois que très clairement, dans le vote du Parlement, eh bien, cette ambition, elle s'exprime.
Alors, le vote du Parlement, le Parlement a adopté cette nouvelle PAC par 425 voix contre 212, hein, petite précision.
Voilà, et donc cette ambition est liée, on la retrouve avec de nombreuses mesures. Et je voudrais peut-être replacer ça dans le contexte plus global, vous l'avez précisé au début, l'Union européenne, qui est aujourd'hui déjà le continent le plus propre, je dirais, le plus vertueux au monde, s'est fixé des objectifs encore plus ambitieux avec une neutralité carbone en 2050. Et l'ensemble des secteurs économiques, eh bien, seront mis à contribution, que ce soit l'industrie, le secteur des transports et l'agriculture aussi. Alors, c'est vrai, on a l'habitude de demander beaucoup aux agriculteurs et à travers les différentes PAC, on leur a demandé de faire toujours plus d'efforts vis-à-vis de l'environnement. Alors moi, j'aimerais que ces efforts soient déjà reconnus parce qu'on a souvent, on montre les agriculteurs du doigt, mais beaucoup d'efforts ont déjà été réalisés par les agriculteurs pour produire de manière plus verte, plus écologique. Et donc, nous sommes battus pour porter cette ambition environnementale, mais pour la lier très fortement à la performance économique également. Je crois que les deux doivent être liés, la performance environnementale et la performance économique, parce que si on n'est pas capable d'assurer un revenu aux agriculteurs, eh bien, il n'y aura pas d'environnement, il n'y aura rien. Donc, on avait vraiment essayé de porter les deux.
Alors, si je vous comprends bien, cette PAC, c'est un bon compromis.
Je trouve que c'est un bon compromis. Alors, ce n'est pas le point final, hein, parce que il faut dire aux personnes qui nous écoutent, c'est la position qui est portée par le Parlement. Parallèlement, les ministres de l'Agriculture de l'Union européenne, eh bien, ont eux dessiné leur PAC tel qu'ils la voient. Et maintenant, nous allons nous réunir dans ce qu'on appelle des trilogues,
en
et
langage,
nous allons trouver une position commune entre le Parlement et les ministres. Donc ce qui a été voté au Parlement, c'est pas le point final de la PAC, hein, mais néanmoins, c'est notre positionnement. Et si j'en reviens à ce que disait L'agriculteur que nous avons entendu, je le rejoins tout à fait sur la difficulté de reprise des exploitations. Alors, et sur la nécessité de soutenir des exploitations à taille plus humaine. Sur la reprise, sur le foncier, je dirais qu'il y a un vrai souci. Mais ça, c'est un souci, le foncier, ça relève des États membres. Donc là, c'est vraiment la France qui doit travailler sur ce sujet-là, parce qu'on a des modèles économiques, des questions foncières très différentes dans les 27 États membres. Et donc, c'est au pays de répondre. Sur la taille des exploitations, je crois qu'en France, la taille est plutôt raisonnable, c'est plutôt des petites exploitations par rapport à d'autres pays européens.
Oui, on est plutôt en France,
par
me disait.
À la République tchèque.
Oui. Thierry Dubout, je me disais que la taille moyenne des exploitations en France, c'était maintenant autour de 75 hectares. Dans certains pays d'Europe centrale et orientale, on a des fermes qui font 1000 hectares, voire un peu plus, ce sont des entreprises agricoles, ce sont plus des fermes ou des exploitations agricoles. Il faut passer au terme
des entreprises. Ce sont travailler des agriculteurs, mais c'est plus l'exploitation telle qu'on la connaît.
Benoît Biteau, eurodéputé Europe Écologie Les Verts. Alors vous avez voté contre cette PAC. Vous avez même été à l'origine d'un amendement pour que on retire purement et simplement cette PAC. Bon, vous n'avez pas été suivi. 166 voix pour votre amendement sur 755. Il en manquait quelques-uns. Alors, est-ce que vous aussi, vous souscrivez aux remarques de l'agriculteur Picard que nous avons entendu tout à l'heure, et quels sont vos principaux reproches sur cette PAC, cette nouvelle PAC 2021-2027?
Effectivement, cet agriculteur pointe les gros écueils de cette PAC qui, contrairement à ce que vous insistez à dire, n'a rien de nouveau dans la mesure où on n'a rien changé dans le cœur du réacteur et qu'elle est le prolongement des générations de PAC qu'on connaît depuis 1993, comme l'a présenté l'expert des chambres d'agriculture. Il a juste oublié qu'en 1995, il a fallu aligner cette PAC à l'OMC, et c'est quand même aussi une raison importante du choix qui a été fait des orientations prise par la PAC. Le biais qui fait qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec Anne, c'est que on continue de vouloir opposer économie et écologie, et que, comme le dit Christiane Lambert, c'est pas quand on...
Alors,
est
Christiane Lambert, qui est la présidente de la FNSEA, le principal syndicat des agriculteurs en France,
et qui est présidente de la COPACOGECA, donc la fédération des syndicats majoritaires à l'Union européenne. Et c'est l'exact inverse. La vérité, c'est que ce poncif, je l'appelle comme ça, était valable au XXe siècle, il ne l'est plus aujourd'hui. Quand on regarde l'efficacité économique de ceux qui ont fait le choix de l'agroécologie, on est dans l'obligation d'accompagner cette agriculture-là pour aussi sortir les agriculteurs des difficultés économiques dans lesquelles ils sont aujourd'hui. Parce que les effets de la PAC, telle qu'on la connaît aujourd'hui, et qui ne changent pas, contrairement à ce que certains veulent s'acharner à dire, en 2020, c'est la disparition de 50% des agriculteurs en 20 ans. C'est un tiers des agriculteurs qui vivent avec moins de 350 euros par mois. C'est un cinquième des agriculteurs qui n'arrivent plus à se dégager de revenus. Et ceux qui se sortent de ces travers-là, de ces difficultés-là, sont ceux qui, justement, vont dans le sens du respect du climat, de la biodiversité et de la santé des consommateurs. Et donc, il faut faire le constat que, justement, quand on est dans le rouge, il faut faire plus vert pour sortir définitivement du rouge. Et la PAC doit nous aider. La PAC doit être le levier pour atteindre ces ambitions-là, mais aussi à trouver des réponses économiques pour les agriculteurs. Et puis le paradoxe de cette PAC que nous avons votée la semaine dernière, c'est qu'elle a été imaginée en 2017-2018, sous l'ancienne mandature, sous la houlette du commissaire Hogan, avec à la présidence de la commission Monsieur Juncker, et que cette nouvelle mandature qui, en décembre 2019, a voté l'état d'urgence climatique, cette mandature qui s'entend sur la nécessité d'un Green Deal avec une commission qui publie une stratégie pour la biodiversité, une stratégie de la ferme à la fourchette, qui ambitionne la réduction de 50% de l'usage des pesticides en agriculture, de 20% des engrais de synthèse en agriculture, qui espère pouvoir porter à 25% les surfaces en bio d'ici 2030, doit construire les politiques publiques qui permettent d'atteindre ces objectifs. Or, le constat, il est que la PAC qu'on a votée la semaine dernière ne permet pas d'atteindre ces objectifs. D'abord parce qu'elle a été imaginée avant cette mandature, et surtout parce qu'elle n'intègre pas ces ambitions-là, et que les outils mis en place dans cette PAC ne sont pas à la hauteur de ces ambitions-là. Je prends un exemple sur la bio, par exemple. On nous a parlé des éco-schemes, des éco-régimes en français, pour essayer de soutenir une agriculture plus verte. Sauf que le soutien à l'agriculture biologique n'est pas dans les éco-schemes, n'est pas dans les éco-régimes, et qu'on continue de vouloir faire porter l'agriculture biologique par le second pilier de la PAC, qui ne représente que 25% du budget de la PAC, et qui, de surcroît, dans les arbitrages financiers auxquels on a pu assister, est la grande victime de ces arbitrages financiers qui font que on n'a pas mis les outils en place pour atteindre ces 25% d'agriculture biologique. Pour revenir sur ce que disait l'agriculteur de Picardie, on n'a pas changé le cœur du réacteur. Ce cœur du réacteur qui distribue des aides par unité de surface fait que plus on a de surface, plus on a d'aide. Et plus on a d'aide, plus on achète de surface, ce qui fait que les agriculteurs se bouffent entre eux et qu'on a mis en berne les politiques d'installation parce qu'il y a une rente foncière derrière chaque hectare de foncier agricole qui fait que les propriétaires du foncier agricole ne le libèrent plus pour l'installation.
Si on a Benoît Doudna, je coupe, on a compris que vous trouviez que cette nouvelle PAC, je l'appelle nouvelle PAC, parce que elle va s'impliquer de 2021 à 2027. C'est pour ça que je l'appelle nouvelle PAC. Donc, vous trouvez cette PAC tout à fait incohérente avec les objectifs de l'Union européenne, décrétés notamment par Ursula von der Leyen lorsqu'elle a pris la tête de la Commission européenne, tandis que vous, Anne Sander, vous trouvez que finalement, c'est le meilleur compromis possible.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Alors on va faire non pas une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, mais on va réfléchir un peu plus sur est-ce que cette agriculture européenne sera-t-elle plus verte ou pas, en faisant un petit détour par la rédaction de Courrier International, car la PAC ne concerne pas que les agriculteurs français, loin de là, et parmi les grands pays bénéficiaires de la PAC, il y a la Pologne, et justement nous allons rejoindre Romain Su, le correspondant de Courrier International à Varsovie. Bonjour Romain.
Bonjour Daniel.
À Varsovie, on suit de très près aussi les évolutions de la PAC, et l'hebdomadaire Politica en profite pour rappeler la diversité de l'agriculture polonaise, à la fois très moderne sur de grandes exploitations et très morcelée avec de micro-exploitations familiales.
Oui, car pour relever le défi d'une agriculture qui doit nourrir plus de personnes en consommant moins de terres, d'eau et d'intrants, la Commission européenne souhaite promouvoir l'usage de nouvelles technologies comme les drones, les imageries satellites et l'analyse automatisée de données, ce qu'on appelle agriculture intelligente ou agriculture numérique. Politica donne plusieurs exemples d'exploitations suffisamment importantes en Pologne pour pouvoir s'offrir ce genre de technologie. Par exemple, pour mesurer en temps réel le taux d'humidité des blés dans les champs, afin d'envoyer les moissonneuses batteuses récoltées au bon moment. En outre, un autre céréalier explique qu'en plus d'optimiser la production, ces technologies permettent de réduire les besoins en main-d'œuvre, alors qu'il est déjà difficile de trouver des candidats pour travailler dans l'agriculture. Cependant, souligne Politica, l'usage de telles technologies requiert de lourds investissements, ce qui les limite à des exploitations qui sont suffisamment importantes pour pouvoir se les offrir. Or, sur les 1,4 million d'exploitations agricoles officiellement recensées en Pologne, seuls 80 000 comptent plus de 30 hectares, alors que c'est le seuil requis en général pour qu'une ferme soit rentable.
Merci Romain Su, correspondant de Courrier International à Varsovie. Thierry Pouche, ne serait-ce qu'à travers ce petit compte-rendu d'un papier de Politica, l'hebdomadaire polonais, on voit bien à quel point l'agriculture européenne est diverse, avec des histoires et des organisations totalement différentes. C'était intéressant d'entendre Romain Su nous expliquer qu'il y a 1 400 000 exploitations agricoles en Pologne, mais simplement 80 000 sont rentables et font plus de 30 hectares, ce qui est d'ailleurs beaucoup moins que les exploitations moyennes en France. L'Europe agricole est d'une très grande diversité.
Ça, c'est une certitude, et ce qui explique notamment les difficultés que les autorités européennes, que ce soit la Commission, le Parlement et les ministres, les difficultés qu'ils rencontrent pour se mettre d'accord. Toutes les réformes depuis 1992 ont donné lieu à des débats extrêmement vifs pour aboutir à un texte final et, en principe, un texte commun. Et tous les 6 ans, on remet ça sur la table. Donc là, contrairement à ce que vous dites depuis tout à l'heure, ça ne sera pas 2021-2027. C'était prévu comme ça dans le texte de mai 2018, proposé par la Commission européenne. Mais là, on est vraiment sur une trajectoire 2023-2030, ce qui veut dire que pendant les 2 années où on va essayer de se mettre d'accord. En tout cas, on va essayer de se mettre d'accord au printemps de 2021. Mais sur le régime transitoire, on va continuer à appliquer...
L'ancienne PAC.
Ça va être l'ancienne PAC qui va s'appliquer, c'est-à-dire celle de 2014 à 2020.
Même si, Bolovito trouve qu'entre l'ancienne et la nouvelle, il n'y a pas de grande différence.
Oui, mais... on pourra discuter à l'infini. Il y a un certain nombre d'évolutions. Sur l'installation des jeunes, par exemple, on voit bien qu'effectivement, un pays comme la France a énormément de mal à renouveler les effectifs d'agriculteurs. C'est pas uniquement lié, quand on regarde un petit peu l'évolution, c'est pas uniquement lié à des déterminants économiques, il y a aussi le fait que en termes sociologiques, en termes d'évolution de la société, le métier d'agriculteur n'attire plus forcément les jeunes aujourd'hui, parce que c'est contraignant, parce que les jeunes veulent aussi avoir des vacances au mois de juillet, plutôt que d'être présents sur leur ferme pour les moissons ou pour être présents auprès de leur cheptel pour faire du lait. Tout cela doit être rentré en ligne de compte. C'est pas simplement un problème économique. Et j'ajouterais que aux Pays-Bas, hein, tout à l'heure il avait été question du prix de l'hectare de terre pour accéder à la profession et prendre en charge donc une exploitation. Aux Pays-Bas, c'est bien plus cher que ça, puisque sur le prix de l'hectare, on est à plus de 60 000 euros maintenant. Et les Pays-Bas s'interrogent énormément sur la pérennité de leur agriculture avec des hommes. C'est pour ça qu'ils ont énormément investi ces dernières années pour moderniser leurs exploitations avec énormément de capital, énormément de technologies, parce qu'ils savent très bien qu'au-delà des problèmes environnementaux qu'ils connaissent depuis fort longtemps, ils auront à terme des problèmes de renouvellement de génération d'agriculteurs par le simple fait que le coût d'entrée dans la profession est très élevé par le biais du foncier aux Pays-Bas.
Et à l'inverse, dans les pays d'Europe centrale orientale, je pense par exemple à la Roumanie, l'hectare est beaucoup moins cher, d'où le rush, non pas des agriculteurs, mais d'entreprises oui. capitalistiques, en ce sens où elles arrivent avec du capital, elles achètent des terres, et après, comme l'a expliqué Anne Sanders, je crois me souvenir, voilà, elles emploient des ouvriers agricoles, des employés agricoles sur place.
Voilà, les agriculteurs deviennent presque des sous-traitants de ces investisseurs. Alors pour la Roumanie, c'est d'autant plus intéressant en termes de perspective que c'est un pays qui est doté de terres extrêmement riches et très productives. La montée en puissance de la Roumanie sur le blé, par exemple, est un fait assez significatif depuis ces dernières années. Mais plus globalement, si vous voulez, on voit bien que, d'une certaine manière... dans le contexte international actuel où il y a une espèce de progression de l'insécurité alimentaire, l'investissement dans l'alimentation, dans l'agriculture, fait l'objet de réflexions, de calculs, parce que l'agriculture devient un objet de convoitise dans un contexte international où l'insécurité alimentaire est toujours là.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, l'agriculture européenne sera-t-elle plus verte ou pas? Nous sommes avec Anne Sander, députée européenne Les Républicains, avec Benoît Biteau, député européen lui aussi, mais Europe Écologie Les Verts, avec Thierry Pouche, responsable du service des études et prospectives aux chambres d'agriculture de France et chercheur associé au laboratoire Regard de l'Université de Reims, et avec Émilie Mayer, experte en tendance consommation-alimentation à l'IRI. Émilie Mayer qu'on n'a pas encore entendu, mais voilà, Émilie Mayer, ça va être votre tour. Il y a évidemment d'un côté de la chaîne des agriculteurs, au milieu une industrie agroalimentaire et puis à l'autre bout des consommateurs. Et justement, qu'est-ce qu'ils attendent, les consommateurs? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de cette nouvelle PAC? Est-ce qu'elle vous paraît en harmonie avec les attentes des consommateurs, c'est-à-dire un peu plus d'écologie, un peu plus de bio, mais pas tant que ça?
Alors, ce qu'attendent les consommateurs en Europe et en France en particulier, c'est de mieux manger. En fait, tout le monde veut mieux se nourrir aujourd'hui. Je pense que les consommateurs en France, par exemple, ont été un petit peu échaudés par divers scandales alimentaires. Hein, si on remonte à la vache folle dans les années 90, puis ensuite les plats préparés à la viande de cheval, et puis régulièrement des dénonciations dans des articles de journaux.
En tout cas, ça fait beaucoup de place à la une des journaux, en tout cas.
Exactement, et ça a une vraie influence. Hein. Les articles de presse ont une vraie influence sur la perception qu'ont les consommateurs ensuite de la qualité des produits qu'ils achètent. Et aujourd'hui, on a des consommateurs qui sont absolument obsédés par la qualité quand ils font leurs courses. Alors certes, ils pensent au prix et à la promotion, mais ils sont... pour une large majorité, à avoir en tête le fait de se dire « je dois acheter des produits de qualité parce que j'ai eu des preuves par le passé que parfois on pouvait me vendre des produits qui n'étaient pas très bons ». Donc Oui, on a des Français qui sont obsédés par ça, qui veulent mieux manger, je dirais, en premier lieu pour leur santé. Mais on sent depuis quelques années la préoccupation écologique qui est là aussi. On se rend compte que la façon dont on consomme, la façon dont on se nourrit, ça peut être préjudiciable à notre santé, mais aussi à l'environnement de la planète sur laquelle on vit. Donc cette préoccupation environnementale, elle est plus récente, mais elle monte très très vite.
Alors, dans ce que vous expliquez, Émilie Maillard, il y a deux choses, parce que c'est vrai que les consommateurs, notamment les consommateurs urbains, veulent mieux manger, et je symbolise un peu avec en dégustant des produits bio et plus sains et donc plus chers. Et puis il y a aussi toute une partie de la population qui, elle, vise d'abord le prix dans tous ces supermarchés de premier prix. Voilà, il y a de plus en plus une dichotomie entre les citoyens européens, mais notamment les Français, entre ceux qui peuvent acheter une alimentation de qualité, ceux qui ne le peuvent pas. Ah, Anne Sander et Benoît Biteau, un petit mot sur cette dichotomie. Anne Sander.
Écoutez, nous, notre combat, c'est de faire en sorte que tous les Français et tous les Européens aient accès à une alimentation qui soit saine et qui soit de qualité. Alors, c'est vrai, certains de nos concitoyens pourront payer un peu plus pour avoir des produits qui sont sous signe de qualité et donc qui coûtent plus cher. Mais vraiment, je crois que c'est de notre responsabilité de faire que tous les aliments, respectent, et je crois que c'est le cas en Europe, malgré les scandales qu'il y a pu y avoir. C'est quand même des scandales. Évidemment, on en a beaucoup parlé, mais c'est minime, je dirais, au niveau européen. Et donc, il faut qu'on poursuive nos efforts. Et moi, je pense qu'avec les objectifs verts que se fixe cette nouvelle politique agricole commune, nous allons y parvenir. Moi, je me demande aussi, quelle est la part? J'ai bien entendu notre experte qui nous disait les consommateurs sont préoccupés par cet aspect de qualité. J'en suis convaincue. J'entends les gens qui me disent la même chose autour de moi. Mais moi, j'aimerais quand même savoir quelle est la part des Français qui ont pour premier objectif la qualité avant le prix. Et je suis très inquiète parce que avec la crise du Covid qui se poursuit et les conséquences économiques qu'il y aura dans les mois à venir et qu'il y a déjà, on voit bien ceux qui ont été impactés d'ailleurs dans la première crise au printemps, c'est tous les agriculteurs qui vendaient des produits sous signe de qualité. Je pense aux fromages, je pense au vin, enfin à tous ces produits qui nécessitent des efforts supplémentaires. Et puis un point aussi, moi j'aimerais qu'on mette l'accent et qu'on montre bien à nos consommateurs la différence entre les produits qui sont produits en France et en Europe avec nos standards et la différence avec les produits qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne. Parce que là, on a un vrai souci.
Et qui sont c'est-à-dire globalement de mauvaise qualité, quoi.
Qui respectent pas nos standards. Donc nous, en Europe, on met en place des standards de qualité, des normes de production environnementales, sanitaires, sociales également. Mais pour les produits qui rentrent au sein de l'Union européenne, ces standards ne sont pas respectés. Et là, je crois qu'il y a tout un travail à faire. Voilà pourquoi aussi je me réjouis que dans la PAC que nous avons votée, nous avons introduit le principe de barrière écologique. Et ça, c'est quand même des choses qui vont dans le bon sens dans cette nouvelle PAC. Je dirais c'est vraiment une avancée, c'est une nouveauté.
Benoît Biteau, sur ce même thème un petit peu, effectivement, plus l'agriculture est de qualité, plus les produits alimentaires qui en sortent sont évidemment un peu chers, ce qui pose un problème, notamment, comme l'a expliqué Anne Sander aujourd'hui, dans cette crise que bien des Français vivent à travers cette pandémie du Covid.
Eh bien, quand on fait une approche globale, tout ça n'est pas forcément aussi simple que ça. Tout simplement parce que les enjeux de qualité des produits, les enjeux sanitaires, les enjeux d'écologie, de climat sont en vérité des enjeux extrêmement liés. Moi, quand j'entends Monsieur Pouch nous dire que les agriculteurs ont fait des efforts, moi, je me rappelle quand même d'Ecofito 2018, qui, entre 2008 et 2018, devait réduire de 50% l'usage des pesticides en agriculture sur les 10 prochaines années. Et en 2018, le constat, il est que sur cette période-là, non seulement on n'a pas amorcé la décrue, mais que en plus, on a constaté une augmentation de l'usage des pesticides de 28% à peu près près 710 millions d'euros plus loin. Et ça m'amène sur les politiques publiques. C'est-à-dire que si on veut parler de prix des produits, parlons des politiques publiques. Et quand on parle de la PAC, on parle d'une politique publique. Et en vérité, les produits qui sont présentés peu chers dans les rayons des supermarchés ou ailleurs sont des produits qui en réalité coûtent horriblement cher parce qu'ils nécessitent des politiques publiques curatives extrêmement coûteuses pour le contribuable pour réparer les dégâts d'une agriculture qui utilise des pesticides et qui souille l'air qu'on respire à chaque instant, qui contamine l'eau qu'on boit et qui coûte horriblement cher pour redevenir potable et qui impacte notre santé. Et donc quand on parle de politique publique, on se rend compte que ces produits peu chers, quand on y agrège les coûts externalisés, sont horriblement chers. Et donc ce que nous demandions avec cette PAC, et ce que nous demandons globalement pour les politiques publiques, c'est qu'elles s'orientent non plus sur ces solutions curatives qui coûtent horriblement cher aux contribuables, mais qu'on les attrape pour soutenir des solutions préventives d'anticipation et qui viennent rémunérer les agriculteurs pour que tous les produits soient parfaitement irréprochables sur la qualité de l'air, sur la qualité de l'eau, sur la qualité des aliments qu'on met dans notre assiette, ce qui parce qu'on parle de politique publique et qu'on parle de notre environnement quotidien, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, la nourriture qu'on mange, c'est quand même notre quotidien, ce qui exige qu'on place ce débat agricole dans un véritable débat de société et qu'on engage les politiques publiques par rapport à ces attentes sociétales et ces attentes citoyennes. Et donc ça nécessite qu'effectivement les politiques publiques cessent d'un côté de perfuser le modèle agricole qui a du mal à se réinventer et qui nécessite derrière des politiques publiques curatives. Utilisons ces enveloppes publiques qui soutiennent le monde agricole et qui aujourd'hui sont engagées dans les solutions curatives pour accompagner une vraie révolution agricole, une agriculture qui se réinvente et qui va faire que les produits de meilleure qualité seront en vérité accessibles à tous. Je prends un exemple très simple qui sort d'une étude publiée par le CEGDD, Conseil Général de l'Écologie et du Développement Durable, qui nous dit qu'en vérité, une laitue issue de cette agriculture qui utilise des pesticides et des engrais de synthèse coûte entre 17 et 27 fois plus cher qu'une laitue à 1 euro issue de l'agriculture biologique. C'est-à-dire qu'en vérité, quand on agrège tous ces coûts externalisés, la laitue coûte entre 17 et 27 euros parce que le contribuable, par des politiques publiques, doit supporter ces politiques curatives. Moi, je pose une question très claire. Est-ce qu'il vaut mieux continuer à acheter une laitue à 70 centimes issue de cette agriculture qui, en réalité, nous coûte entre 17 et 27 euros? Et est-ce qu'on a les moyens de continuer à payer des laitues à 17 ou 27 euros? Ou est-ce qu'on doit engager les politiques publiques pour que tout le monde ait accès à la laitue à 1 euro qui coûtera définitivement 1 euro?
On a bien compris votre point de vue, Benoît Biteau. Émilie Maillard, je vais revenir avec vous sur quelque chose qui paraît plus anecdotique, mais en France, on a en tout cas cette notion de terroir, de petits producteurs. Alors, est-ce que c'est une tendance très française ou est-ce qu'on a ça à peu près la même chose dans d'autres pays du monde, dans d'autres pays européens notamment?
Alors, on va dire que cette notion d'attachement aux produits locaux, hein, soit à un terroir, soit au pays nationalement, c'est quand même assez partagé entre les différents pays européens. Quand on interroge les consommateurs européens, ils sont près de 70% à nous dire préférer acheter des produits qui sont issus d'un circuit court. Alors, ça va varier un petit peu d'un pays à l'autre, hein, dire que les pays du Sud, l'Italie, la Grèce, la France, on va être sur des pourcentages qui sont encore plus élevés, hein. On est par exemple à 83% des Italiens qui sont attachés à l'achat de produits issus de circuits courts. Et puis, dans les pays les moins élevés sur cet item-là, on va retrouver les Pays-Bas, par exemple, simplement à 51%.
C'est un peu lié au pays. Est-ce que dans certains pays d'Europe, on aime bien manger? Il y a des notions de gastronomie. Là, on est plus proche des circuits courts et des petits producteurs. Et dans des pays plutôt du Nord, où on se nourrit avant de avoir le plaisir de manger. En tout cas, c'est peut-être un lieu commun, mais c'était quand même une petite vérité. On est moins attaché à cette notion de terroir.
Exactement, effectivement. Plus on va être sur un pays avec une gastronomie importante, plus le lien à l'alimentation va être fort et du coup les attentes par rapport à la qualité de l'alimentation vont être élevées, effectivement.
Thierry Pouche, cette notion de terroir, quand vous parlez de terroir aux États-Unis, on rigole. Parce que les États-Unis sont aussi la plus grande agriculture du monde et l'agriculture française qui s'inclut dans l'agriculture européenne, on a bien compris qu'elle était très diverse, s'inclut dans l'agriculture mondiale.
Je ne suis pas certain qu'aux États-Unis, on rit ou sur notre penchant à rechercher des produits de terroir. Vous avez des cas dans certains États ruraux aux États-Unis où des fermes qui ont 40 000 vaches font aussi du circuit court, ont des parcelles en bio, font de l'accueil à la ferme, du tourisme à la ferme. Donc c'est peut-être un peu plus complexe et un peu plus diversifié que ça. On a des exemples aux États-Unis de ce type-là. Donc c'est vrai qu'en France, il y a dans d'autres pays comme l'Italie, ça a été souligné, il y a cette recherche de proximité qui s'est en plus exacerbée avec la crise sanitaire, étant donné qu'on pouvait plus vraiment faire ses courses à peu près normalement. Mais je voudrais quand même rappeler hein, sur les épisodes de crise sanitaire. Dans les années 50, on avait des problèmes d'intoxication alimentaire qui pouvaient entraîner des décès. C'était à peu près un peu plus de 1000 par an. Aujourd'hui, c'est vraiment une petite centaine, voire moins. Donc il y a quand même eu un progrès malgré tout sur la sécurité sanitaire des produits que nous absorbons tous les jours. Alors évidemment, après, on trouvera toujours des exemples qui iront dans le sens inverse. Mais globalement, en France, il y a quand même cette notion de savoir-faire qui est assez reconnue, y compris dans le monde entier. Lorsqu'on exporte nos produits agricoles et nos produits alimentaires, il y a cette reconnaissance. Donc la notion de terroir n'est pas spécifique à la France. On le voit aussi en Autriche. Hein, notamment dans la partie bavière, il y a cet attachement qui est souvent lié d'ailleurs hein, à des activités agricoles et des activités de tourisme à la ferme où on peut partager justement ce genre de produits à table.
Là où il y a de vrais agriculteurs et pas des entreprises agricoles en tout cas.
Oui, certainement, mais enfin là c'est encore bien plus compliqué. Je rappelle quand même qu'il y a eu une loi d'orientation en 2005 qui a instauré la notion d'entrepreneur agricole. Donc on voit bien qu'il y a aussi une évolution. Aujourd'hui, l'agriculture familiale, elle existe encore. Elle a été instaurée au début des années 60 par les lois Pisani notamment. Donc cette agriculture a deux unités de travail, mais il y a quand même une évolution aujourd'hui, étant donné les demandes qu'on adresse aux agriculteurs pour se moderniser, pour adopter de la technologie, tout cela coûte très cher. Donc la question est aujourd'hui posée de l'ouverture du capital des exploitations à des capitaux extérieurs. Donc c'est un vrai problème. Et est-ce qu'on va justement pouvoir conserver dans les années à venir, si cette tendance se maintient, une agriculture familiale? Tout le débat est aujourd'hui posé aussi autour de la réforme de la politique agricole commune. Hein, c'est aussi ça l'enjeu.
Alors, quand vous écoutez Thierry Pouche, Anne Sander, sur la diversité du monde de l'agriculture et du monde de la consommation alimentaire, comment vous avez envie de réagir?
Mais je rejoins ce qu'il disait, on le voit, il y a une diversité d'agriculture en France, mais aussi en Europe. Moi, je voudrais surtout insister sur la nécessité de ne pas opposer les modes de production et les modes de commercialisation. Les modes de production, on a du bio, on n'a pas de bio, on a différents modèles, et je crois qu'il faut tous les soutenir. On peut pas décréter un pourcentage de bio sans qu'il y ait un marché derrière. Enfin, il faut être extrêmement prudent. Et puis sur les circuits courts, là aussi, sur les modes de commercialisation. Il faut accepter qu'il y ait différents modes de commercialisation. Moi, je suis dans une région en Alsace où dans chaque village, on a un, deux agriculteurs qui font de la vente directe à la ferme. C'est quelque chose de très positif qui permet aussi d'accueillir des enfants, qui permet aussi de faire du tourisme, de l'œnotourisme et de bien communiquer sur le métier d'agriculteur. Mais en même temps, je sais aussi que l'agriculture française s'exporte. On est content d'exporter nos vins, nos fromages, nos produits sous signe de qualité, nos céréales. Enfin, et cette agriculture, elle est aussi créatrice de valeur, créatrice d'emplois sur l'ensemble du territoire. Donc moi, je milite vraiment pour une vision globale qui soit pas réductrice pour qu'on puisse eh bien soutenir ces différentes formes d'exploitation agricole.
Benoît Hitto, vous seriez d'accord avec ce que vient de dire Anne Sander ou pas du tout, ou quand même un petit peu?
Non, je peux pas adhérer à ce propos-là parce que on parle de politique publique, c'est-à-dire que son propos s'entend dans une économie libérale où chacun a sa liberté d'entreprendre, sauf que on parle de la politique agricole commune et donc on parle d'une politique publique et donc on parle d'argent public qui est destiné à accompagner une activité économique qui s'appelle l'agriculture. Et donc elle ne peut pas se déconnecter des attentes sociétales, des attentes citoyennes comme je le disais tout à l'heure et se satisfaire d'accompagner une agriculture qui a une vocation exportatrice. C'est vrai qu'on exporte, mais on importe beaucoup, c'est-à-dire que c'est logique d'exportation de nos céréales exige, dans des accords conclus avec l'OMC, notamment l'accord de Blair House, qu'on limite nos productions en protéines et qu'on crée une dépendance au soja. Alors que on pourrait, avec une politique publique, orienter une agriculture qui satisfait l'enjeu inscrit dans le traité de Rome qui parle de sécurité alimentaire, et moi je vais plus loin, de souveraineté alimentaire, qui ferait qu'on produirait ici pour nourrir ici et qu'on produirait là-bas pour nourrir là-bas. Ça n'empêche pas que les produits identitaires qui portent l'identité de notre territoire, comme le fromage, les vins, continuent de s'exporter, et de la même manière qu'on importe des produits comme le cacao, comme le café, qu'on ne sait pas produire en France. Je suis pas en train de remettre en cause l'économie mondiale, je suis en train de dire que sur certaines productions, on devrait pouvoir se débrouiller sans avoir ces échanges de céréales et de soja, par exemple. Et pour revenir sur ce que disait Monsieur Pouche, il y a quand même une entrée qu'il faut qu'on intègre, c'est l'autonomie. C'est-à-dire qu'on doit porter des politiques publiques qui donnent davantage d'autonomie aux agriculteurs. Et quand on fait entrer des capitaux dans une entreprise, on s'éloigne de l'autonomie de décision de l'agriculteur. Quand on utilise de la digitalisation de l'agriculture, et je suis pas contre la modernité, il faut effacer la pénibilité du travail chez les agriculteurs. Mais attention à ne pas aller trop loin, parce que à chaque fois qu'on se lance dans des investissements comme celui-là, l'agriculteur perd son autonomie, et c'est comme ça qu'on voit disparaître des agriculteurs trop rapidement, et je répète, 50% des agriculteurs ont disparu en 20 ans, et en grande partie à cause de la façon dont on a bâti les politiques publiques pour les accompagner.
Thierry Pouche, juste un petit mot, c'était l'objet d'une précédente émission, mais l'Union européenne est un peu moins, je dirais, naïve, par exemple, elle a remis en cause l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, donc les pays de l'Amérique latine, justement sur des questions climatiques et quelque part écologiques.
Oui,
il y a un changement quand même.
Il y a une amorce de changement quand on lit le texte sur la stratégie de la ferme à la fourchette. Dans la section 4, il y a effectivement une volonté de remettre en cause la politique commerciale qui a été menée jusqu'à présent. Et justement, avec la signature de l'accord avec le Mercosur en 2019, il y a cette question de savoir si en accordant des contingents à droit réduit ou à droit de douane nul, on ne va pas importer aussi de la déforestation. Donc il y a une condition maintenant qui va être certainement mise sur la table lors des négociations, c'est de savoir si le pays avec lequel, ou le groupe de pays avec lequel on négocie, peut répondre aux exigences environnementales que l'Europe va mettre dans ses normes. Mais il y a un autre aspect, et ça va être intéressant dans les années à venir, soit les pays du Mercosur obtempèrent, c'est-à-dire acceptent de réviser l'accord qui a été trouvé, soit on va se retrouver dans une situation où l'Europe ne va peut-être pas aller jusqu'au bout de son raisonnement et de son processus, et on va aboutir finalement à ce qui s'est passé au moment du GATT et des accords de Marrakech, où l'Union européenne a cédé, et elle a cédé aussi après dans différents aspects techniques comme l'abandon des restitutions aux exportations. Donc là, il y a un vrai défi pour l'Union européenne de savoir si elle va aller jusqu'au bout de ce qu'elle veut faire, si elle va pouvoir imposer au reste du monde ses normes, ou si au contraire, il va y avoir un affaiblissement avec les pays avec lesquels on négocie et on signe des accords commerciaux.
Anne Sander, Benoît Biteau, Thierry Pouche, Émilie Maillard, merci à tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Steven Elsley, avec Romain Sud du Courrier International. Sur la page de l'émission Des Infos sur nos invités, pour écouter ce Carrefour de l'Europe et tous les autres, RFI rubrique podcast ou Carrefour de l'Europe RFI via votre moteur de recherche préféré, qui peut être le moteur de recherche européen Quant. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desescales, où que vous soyez, à Paris, Bruxelles, Varsovie, Hérissart en Picardie, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.